Chapitre 19. La fin de la guerre. Bataille de Coriston. Opposa le 3-1-377 de l'ère de la Fondation, les forces de la Fondation et celles du seigneur Stettin de Calgan. Ce fut la dernière grande bataille de l'interrègne. Encyclopédia Galactica. Joel Turbor, désormais correspondant de guerre, avait vu sa vaste corporalité subitement enchâssée dans un uniforme de la flotte, ce qui, à vrai dire, ne fut pas pour lui déplaire. Il savourait la joie d'avoir retrouvé les chemins du ciel, et il perdit quelque peu la sensation de farouche impuissance qui caractérisait la lutte contre la seconde fondation au profit d'un sentiment plus exaltant, avec la perspective de se mesurer à des vaisseaux faits d'une matière substantielle et à des hommes en chair et en os. Assurément, le combat mené par la Fondation n'avait guère été fertile en victoire, mais il était toujours possible de considérer la situation avec une certaine philosophie. Après 6 mois d'hostilité, l'essentiel de la Fondation demeurait intact, et les forces vives de la flotte n'avaient pas été entamées. Avec les nouvelles unités mises en service depuis le commencement de la guerre, elle était presque aussi forte du point de vue numérique, et techniquement plus puissante qu'après la défaite d'Ifni. Dans l'intervalle, les défenses planétaires avaient été renforcées, les forces armées mieux entraînées, l'administration expurgée des éléments superflus était devenue plus efficace, et une grande partie de la flotte conquérante calganienne était immobilisée par la nécessité d'occuper les territoires conquis. Pour le moment, Turbor se trouvait avec la 3e flotte, dans les limites périphériques du secteur anacréonien. Conformément à sa politique éditoriale consistant à vouloir rendre compte de ce qu'il appelait « la guerre des humbles », il s'attachait à donner la parole aux petits, aux sans-grades. Il interviewait donc ce jour-là Fennel Limor, mécanicien volontaire de 3e classe.
« Parlez-nous un peu de vous, matelot, »
dit Turbor.
« Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. »
Limor remuait les pieds avec embarras et laissa un sourire timide venir éclairer son visage, comme s'il avait pu voir les millions de gens qui l'observaient probablement sur leur écran à ce moment précis.
« Je suis Locrien. Avant, je travaillais dans une usine d'aérovoitures, j'étais chef d'équipe, ça payait bien. Je suis marié, 2 enfants, 2 filles. Dites voir, peut-être que je pourrais leur dire un petit bonjour pour le cas où elles seraient à l'écoute. »«
Allez-y, matelot. » Le micro est à vous. Regardez bien la caméra.
Waouh, super, merci,
bafouilla-t-il.
Salut Mila. Au cas où tu regardes, je vais bien. Et Sunny, ça va? Et Thomas? Je pense à vous tout le temps. Et peut-être que j'irai en permission quand on rentrera au port. J'ai reçu ton paquet de provisions, mais je te le renvoie. Nous ici, ça va de ce côté-là. On mange normalement. Mais il paraît que les civils sont un peu rationnés. Bon, eh ben, je crois que c'est tout.
J'irai la voir à mon prochain voyage à Locris, matelot. Et je veillerai à ce qu'elle ne manque de rien, ça vous va?
Le jeune homme eut un large sourire et hocha énergiquement la tête.
Merci, monsieur Turbor. Ce serait sympa de votre part.
Ce n'est rien. Puis-je vous poser quelques questions? Vous êtes volontaire, n'est-ce pas?
Un peu que je suis volontaire. Moi, quand on me cherche, on me trouve. Je me suis engagé le jour même où j'ai appris pour le Obermalo.
Bien vu, matelot. Et vous avez déjà participé à beaucoup de combats? Je remarque que vous portez 2 étoiles.
Le matelot venait de cracher par terre.
Si on peut appeler ça des combats, moi, je dirais plutôt de la course de fond. Les Calganiens, s'ils ne sont pas 5 contre 1, ils refusent de se battre. Et même comme ça, ils s'arrangent pour nous isoler les uns des autres, pour pouvoir nous avoir plus facilement. J'avais un cousin à Ifni. Il était sur un des vaisseaux qui s'en est sorti. Un tout vieux, les Blingmis. Eh bien, mon cousin, il m'a raconté qu'ils avaient fait la même chose. Ils avaient rassemblé toute une flotte juste pour se battre contre une escadre. À la fin, il ne nous restait plus que 5 vaisseaux. Eh bien, ils continuaient à éviter le combat rapproché. N'empêche, ce jour-là, on leur a descendu 2 fois plus de vaisseaux que nous nous en ont descendus.
Alors vous croyez que nous allons gagner la guerre?
Un peu qu'on va la gagner. Surtout que maintenant, on recule plus, c'est fini ça. Et puis, si vraiment ça tournait mal, je pense qu'il y aurait quand même la seconde fondation pour venir nous donner un coup de main. On a toujours le plan Seldon, nous. Et ça, ils le savent bien, va ?
Turbor fit un peu la grimace.
« Alors, vous comptez sur la seconde fondation ?»
Le matelot manifesta une honnête surprise.
« Ben ouais, comme tout le monde, non ?»
L'aspirant Tipelhomme entra dans la cabine de Turbor après l'émission. Il tendit une cigarette au correspondant de guerre et repoussa sa casquette sur son occiput dans une position d'équilibre instable. « Nous avons fait un prisonnier, » dit-il.
« Ah oui ?»
« Oui, un petit bonhomme un peu cinglé. Il prétend qu'il est neutre. Immunité diplomatique, carrément. Je crois qu'on ne sait pas trop que faire de lui, en fait. Il s'appelle Palvro, Palver, quelque chose comme ça, et il dit qu'il est de Trentor. Je me demande ce qu'il vient faire dans une zone de guerre. »
Mais Turbor s'était redressé sur sa couchette. La sieste serait pour plus tard. Il se souvenait parfaitement de sa dernière entrevue avec Darrell, le lendemain de la déclaration de guerre alors qu'il se préparait à partir.
« Prim Palver, »
dit-il. Ce n'était pas une question. Tipelhomme dressa l'oreille et laissa la fumée de sa cigarette s'échapper par les coins de sa bouche.
« Ouais ? C'est ça ? » dit-il.
« Par l'espace. Mais comment vous le saviez ? Peu importe. Puis-je le voir ?
Par l'espace ? Ça, c'est pas moi qui pourrais vous le dire. Le pacha l'a emmené dans sa cabine personnelle pour l'interroger. Tout le monde le prend pour un espion.
Allez dire au commandant que je le connais. Et qu'il est bien ce qu'il prétend être. J'en prends la responsabilité. »
Sur le vaisseau amiral de la troisième flotte, le capitaine de vaisseau Dixil observait sans relâche le super-détecteur. Tout vaisseau était obligatoirement une source de radiation subatomique, même à supposer qu'il fût réduit à l'état de masse inerte, et chaque point focal d'une telle radiation apparaissait comme une petite étincelle dans le champ tridimensionnel. On avait procédé à l'appel de tous les vaisseaux de la Fondation sans omettre une seule étincelle, après que le petit espion qui se prétendait neutre avait été fait prisonnier. Pendant quelque temps, ce vaisseau avait provoqué une certaine agitation dans l'entourage du capitaine. Peut-être serait-il nécessaire de procéder à un changement de tactique dans un court délai. En l'état actuel des choses...
« Êtes-vous certain de vos coordonnées ? » s'informa-t-il.
Le capitaine de frégate, Sen, hocha la tête.
« Affirmatif, mon capitaine. Mon escadre se rendra sur zone en mode hyperespace. Rayon 10,00 parsec. Theta 268,52 degrés. Phi 84,15 degrés. Retour au point d'origine à 1330. Durée totale de l'absence, 11,83 heures. »
« Bien.
Il faut que nous puissions compter sur un retour sur zone parfait au niveau des coordonnées espace-temps, compris ?»«
Oui, mon capitaine. »
Il consulta sa montre bracelet.
« Mes vaisseaux seront parés pour 0140. »«
Bien, » dit le capitaine Dixil. L'escadre kalganienne n'était pas pour l'instant à portée de détecteur, mais cela ne pouvait tarder. Différents recoupements l'indiquaient. En l'absence de l'escadre de Sen, les forces de la Fondation se trouveraient en grave infériorité numérique. Mais le capitaine était confiant. Très confiant. Prim Palver regardait mélancoliquement autour de lui. Son regard tomba tout d'abord sur l'amiral, grand et osseux, puis sur les autres, tous en uniforme. Et enfin, sur le dernier, grand et gros, avec son col ouvert et sans cravate, contrairement aux autres, qui déclaraient vouloir lui parler.
« Je suis parfaitement conscient, »
disait Joel Turbor,
« de la gravité des circonstances, mais je vous assure que si vous me permettez de m'entretenir avec lui pendant quelques minutes, il se peut que je sois à même d'apaiser vos inquiétudes. »
« Existe-t-il une raison qui s'oppose à ce que vous l'interrogiez en ma présence ?»
Turbor fit la moue et prit un air buté.
« Amiral, »
dit-il.
« Depuis que je suis attaché de presse auprès de votre formation, la troisième flotte a joui d'une excellente presse. Vous pouvez poster des gardes à la porte, si vous le voulez, et rentrer dans 5 minutes. Mais dans l'intervalle, accordez-moi cette petite faveur, et votre prestige n'en souffrira pas. »
Je ne sais si je me fais bien comprendre. »
Ce petit discours obtint l'effet attendu. Demeuré en tête à tête avec le prisonnier, Turbor se tourna vers Palver et lui dit
« Vite, dites-moi le nom de la jeune fille que vous avez enlevée. »
Palver ne put couvrir des yeux ronds et secouer la tête.
« Ne faites pas l'idiot !» dit Turbor. « Si vous refusez de répondre, vous serez considéré comme un espion. Et en temps de guerre, les espions sont désintégrés sans jugement. »«
Arcadia Darrell !»
finit par balbutier Palver en haletant.
« À la bonne heure. Vous voyez quand vous voulez. Elle est donc saine et sauve. »
Palver hocha la tête.
« Vous en êtes bien sûr. J'espère pour vous, sinon ça pourrait mal aller. »
« Elle est en bonne santé, elle va bien, »
dit Palver d'une voix atone. L'amiral reparut. « Eh bien ?»«
Cet homme n'est pas un espion. Vous pouvez croire ce qu'il vous dit, je m'en porte garant. »« Vraiment ?»
L'amiral fronça les sourcils.
« Dans ce cas, il représente une coopérative agricole de Trentor qui désire souscrire un traité de commerce avec Terminus pour la livraison de grains et de pommes de terre. »«
Parfait. » Mais nous ne pouvons pas lui rendre la liberté pour l'instant.
« Pourquoi pas ?»
s'enquit vivement Palver.
« Parce que nous sommes en pleine bataille. Lorsqu'elle sera terminée, en supposant que nous soyons toujours vivants, nous vous conduirons sur Terminus. »
La flotte calganienne, déployée dans l'espace, détecta les vaisseaux de la Fondation à une distance phénoménale et fut elle-même aussitôt repérée. S'observant, tels des lucioles sur l'écran de leurs superdétecteurs respectifs, les deux ennemis se rapprochaient à travers le néant. L'amiral commandant la flotte de la Fondation fronça les sourcils et dit «
Ce doit être leur offensive principale. Voyez le nombre de leur unité. »
Puis il ajouta
« Mais ils ne tiendront pas devant nous. Du moins si l'escadre de Seine se trouve au rendez-vous. »
Le capitaine de frégate Seine les avait quittés plusieurs heures auparavant, dès l'apparition de l'ennemi sur les écrans. Il n'était plus possible désormais de modifier le plan. La manœuvre réussirait ou ne réussirait pas, mais l'amiral était parfaitement confiant, de même que les officiers, de même que les équipages. Mais revenons à nos lucioles. Tel un balai mortel en formation irréprochable, elles étincelaient sur l'écran. La flotte de la Fondation amorça une lente retraite. Des heures passèrent et la flotte obliqua lentement, attirant légèrement l'ennemi hors de sa trajectoire et accentuant le mouvement. Dans l'esprit de ceux qui avaient conçu le plan de bataille, un volume donné de l'espace devait être occupé par les vaisseaux calganiens. Les bâtiments de la Fondation se faufilaient subrepticement hors de ce volume. Les calganiens prenaient leur place. Ceux qui débordaient du périmètre subissaient une attaque foudroyante à pleine puissance. Ceux qui demeuraient à l'intérieur n'étaient pas inquiétés. Tout dépendait de la répugnance que manifesteraient les vaisseaux de Stettin à prendre l'initiative ou de leur propension à demeurer dans la position où ils ne subiraient pas d'attaque. Le capitaine de vaisseau d'Ixil jeta un coup d'œil impassible sur sa montre bracelet. Il était 1310.
« Nous avons encore 20 minutes, » dit-il.
Le lieutenant qui se trouvait à ses côtés hocha la tête d'un air concentré.
« Tout a l'air d'aller bien pour l'instant, mon capitaine. Nous avons encerclé 90% de leurs unités. Si nous pouvons les maintenir dans cette position... »«
Oui. Si. »
Les bâtiments de la Fondation avaient repris leur marche en avant, à très faible vitesse, pas assez rapide pour déclencher une retraite calganienne. Leur avance tout juste suffisante pour décourager toute velléité d'offensive de l'ennemi. Ils préféraient attendre. Et les minutes passèrent. À 1325, le signal de l'amiral retentit dans 75 des vaisseaux que la Fondation avait alignés en ordre de bataille, et avec le maximum d'accélération, ils foncèrent vers le front d'attaque de la flotte calganienne, forte elle-même de 300 unités. Les boucliers calganiens entrèrent en action, et les puissants rayons énergétiques jaillirent. Les 300 vaisseaux concentrèrent leur feu dans la même direction, sur leurs assaillants insensés qui fonçaient tête baissée droit devant eux. Et, à 1330, 50 vaisseaux, sous le commandement de Seine, surgirent de nulle part, en un seul saut à travers l'hyperespace, en un point déterminé, au moment déterminé, et se jetèrent avec une furie dévastatrice sur les arrières calganiens, surpris. Le piège fonctionna parfaitement. Les calganiens avaient toujours la supériorité numérique, mais ils n'étaient visiblement pas d'humeur à en profiter. Leur premier mouvement fut de prendre la fuite, et la formation, une fois rompue, se trouva d'autant plus vulnérable que les vaisseaux ennemis se gênaient mutuellement en entrecroisant leur trajectoire. Après un moment, l'affaire tourna littéralement au jeu de massacre. Sur les 300 vaisseaux calganiens, le cœur et l'orgueil de la flotte, une soixantaine à peine, parmi lesquels un grand nombre endommagés au point d'être irréparables, vinrent se poser sur Calgan. En ce troisième jour de la nouvelle année 377, les pertes de la Fondation se montaient à 8 unités sur un total de 125 vaisseaux. Prim Palver se posa sur Terminus alors que les festivités battaient leur plein. La liesse populaire le mit un peu mal à l'aise, mais avant de quitter la planète, il s'était acquitté de ses deux missions et s'était vu confier une requête. Les deux missions étaient les suivantes. 1. Conclure un traité commercial au terme duquel la coopérative de Palver s'engageait à livrer 20 cargos de marchandises par mois au cours de l'année suivante, à des tarifs de guerre, sans encourir, grâce à la récente bataille, les risques correspondants. 2. Communiquer au docteur Darrell la phrase confiée à son oreille par Arcadia. Darrell l'avait regardé avec des yeux ronds, pétrifié par la surprise, puis il lui avait confié sa requête. Il lui demandait de transmettre sa réponse à Arcadia. Palver trouva cette phrase-là davantage à son goût, car elle était simple et tout le monde pouvait la comprendre. « Rentre maintenant, il n'y aura plus de danger. » Le seigneur Stettin écumait de rage et de dépit. Voir toutes ses armes se briser entre ses mains, sentir la trame robuste de sa puissance militaire se décomposer entre ses doigts. N'y avait-il pas de quoi tourner en lave brûlante le flegme le plus imperturbable? Pourtant, son impuissance était totale, et il ne l'ignorait pas. Il n'avait pratiquement pas dormi depuis des semaines. Il ne s'était pas rasé depuis 3 jours. Il avait annulé toutes ses audiences. Ses amiraux étaient abandonnés à eux-mêmes. Et nul mieux que le seigneur de Calgan ne savait qu'avant longtemps, si de nouvelles défaites venaient à survenir, son royaume deviendrait la proie des soulèvements internes. La présence de Lev Mérus, le premier ministre, n'arrangeait pas les choses. Il restait là, debout, calme et vieux jusqu'à l'indécence, avec ses doigts secs et nerveux qui tapotaient, comme toujours, la ride profonde qui lui barrait le visage de la racine du nez à la pointe du menton.
« Eh bien !» hurlait Stettin à son adresse. « Faites un peu quelque chose !» Nous voilà battus, comprenez-vous, battus. Et pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, je ne sais pas. Vous la connaissez, vous, la raison de notre défaite?
Je le crois, dit Mérus sans se départir de son calme.
Trahison.
Il avait prononcé le mot à voix basse, et ceux qui suivirent furent proférés sur le même ton.
Vous saviez qu'il y avait eu trahison. Et vous êtes demeuré quoi? Vous avez servi l'imbécile qui fut avant moi premier citoyen, et vous vous préparez à servir le rat pesteux qui prendra ma succession. Si je trouve la preuve de votre félonie, je vous arracherai les entrailles et je les ferai brûler sous vos propres yeux. »
Mérus demeura impassible. « J'ai tenté, non pas une fois, mais à maintes reprises, de vous faire partager mes doutes. J'ai hurlé mes avertissements à vos oreilles. Mais vous avez préféré suivre les conseils des autres, parce qu'ils flattaient davantage votre vanité. Les événements ont dépassé mes craintes, et de fort loin. S'il ne vous plaît pas de m'écouter à présent, monsieur, veuillez me le dire, et je m'effacerai. Le moment venu, je traiterai avec votre successeur, dont le premier acte sera, je n'en doute pas, de signer la paix. »
Stettin le fixait de ses yeux injectés de sang, serrant et desserrant lentement ses énormes poings.
« Eh bien, parle donc, vile limace grise. Parle, je te l'ordonne !»«
Je vous ai souvent répété, monsieur, que vous n'étiez pas le mulet. Vous pouvez diriger des vaisseaux et des canons, mais pas l'esprit de vos sujets. Savez-vous, monsieur, quel est l'ennemi que vous combattez? C'est à la fondation que vous vous attaquez, cette fondation qui n'a jamais été vaincue, qui est protégée par le plan Seldon, et qui est destinée un jour à fonder un nouvel empire.
Il n'y a plus de plan. C'est fini. C'est Mun qui l'a dit.
Alors c'est que Mun se trompe. Et même à supposer qu'il ait raison. Vous et moi, monsieur, nous ne sommes pas le peuple. Les hommes et les femmes de Kalgan, comme les populations satellites, professent une foi profonde dans le plan Seldon, de même que tous ceux qui habitent cette région de la galaxie. 400 ans d'histoire, à quelques années près, nous ont appris que la Fondation ne peut pas être battue. Ni les royaumes, ni les seigneurs de la guerre, ni le vieil empire galactique lui-même ne sont parvenus à la vaincre.
Le mulet, si.
Exactement. Parce qu'il échappait au calcul, ce qui n'est pas votre cas. Et il y a pire. Les gens ne l'ignorent pas. Aussi, lorsque vos vaisseaux vont à la bataille, craignent-ils que la défaite ne leur soit infligée par quelque voie mystérieuse? La toile immatérielle du plan, au-dessus de leur tête, plane et les rend timides, si bien qu'au moment de l'attaque, ils réfléchissent un peu trop longtemps. Dans le camp adverse, au contraire, ce même tissu impondérable remplit l'ennemi de confiance, chasse la crainte, maintient le moral lors des premières défaites. Pourquoi pas? La Fondation a toujours subi des revers au cours des premières escarmouches, mais elle a toujours fini par remporter la victoire. Que dire de votre propre morale, monsieur? Vous occupez partout des territoires ennemis? Vos propres dominions sont intacts. Ils ne sont pas même en danger d'être envahis, et pourtant vous vous sentez vaincu. Vous ne croyez même pas à la moindre possibilité de victoire, car vous savez parfaitement qu'il n'en existe pas. Inclinez-vous dans ce cas si vous ne voulez pas être contraint par la force de vous agenouiller. Pliez volontairement, et vous aurez quelque chance de sauver les restes. Vous vous êtes appuyé sur le métal et la puissance, et ils vous ont accordé un soutien à leur mesure. Vous n'avez pas tenu compte de l'esprit et du moral, et ils vous ont trahi. Maintenant, suivez mon conseil. Omir Mun, cet homme de la Fondation, est entre vos mains. Libérez-le. Renvoyez-le sur Terminus avec des propositions de paix. Les lèvres blêmes et pincées, Stettin grinçait des dents. Mais avait-il encore le choix? Au 8e jour de la nouvelle année, Omir quitta à nouveau Kalgan. Plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté Terminus. Et durant cet intervalle, une guerre s'était déchaînée, puis apaisée. Il était venu seul, mais il repartait sous escorte. Il était venu en simple particulier. Il repartait en qualité d'ambassadeur, officieux sans doute, mais revêtu néanmoins de plein pouvoir. Et ce qui avait le plus changé en lui, c'était son ancienne inquiétude au sujet de la seconde fondation. Il riait rien que d'y penser. Et il se représentait déjà, avec un luxe de détails, le spectacle de la révélation qu'il allait faire au docteur Darrell, à ce jeune Antor si compétent et si énergique, à tous. Car il savait, lui, Omir Mun, qu'il avait finalement découvert la vérité.